Deutsche Welle. Droits et libertés.
Il y a 3 ans, le groupe Boko Haram lançait un assaut sur une école du nord-est du Nigeria. Des centaines de jeunes filles ont été enlevées par les islamistes et en réponse, la campagne Bring Back Our Girls déferlait sur les réseaux sociaux pour réclamer leur libération. Un hashtag très controversé depuis, nous en parlons cette semaine. Et puis également au sommaire, le manque de solidarité interafricaine face à la famine qui frappe plusieurs pays du continent. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Près de 200 jeunes filles enlevées par Boko Haram à Chibok sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le mot d'ordre « Bring back our girls » lancé sur les réseaux sociaux pour faire pression sur les autorités nigérianes en vue d'obtenir la libération des otages. Ce hashtag a recueilli des milliers de soutiens, y compris de la part de personnalités à travers le monde. Parmi les figures les plus célèbres qui rejoignent rapidement le mouvement, il y a l'épouse du président américain de l'époque, Michelle Obama. Des clips vidéo sont même produits en soutien aux jeunes nigérianes.
My husband and I are outraged and heartbroken over the kidnapping of more than 200 Nigerian girls from their school dormitory in the middle of the night.
Listen, bring back our girls. Bring back our girls.
Alors on peut discuter de la qualité artistique de la chose, quoi qu'il en soit, la campagne se solde par un échec. Seule une vingtaine de jeunes filles ont recouvré la liberté. Et encore, du point de vue de la journaliste et écrivaine nigériane Adaobi Nwaobani, ces jeunes filles ne sont pas réellement libres.
They're too famous to be free.
Elles sont trop célèbres pour être libres, voilà ce que dit Adaobi Nwaobani. Et cela à cause de la campagne Bring Back Our Girls qui finalement les a desservies. Les jeunes filles libérées n'ont toujours pas pu rentrer dans leur village d'origine. Au lieu de cela, elles sont tenues en lieu sûr par le gouvernement du Nigeria qui ne dit pas où elles se trouvent afin d'éviter un nouvel enlèvement qui serait un gros coup médiatique pour la secte Boko Haram.
Ces jeunes filles sont toujours sous la protection du gouvernement parce que l'armée craint pour leur sécurité. Elles sont si célèbres qu'elles pourraient devenir la cible d'un nouveau rapt. Elles sont désormais considérées comme précieuses.
Le 14 avril 2017, ça fera 3 ans que Boko Haram a enlevé des écolières à Chibok. Et comme je vous le disais tout à l'heure, près de 200 d'entre elles sont toujours retenues en otage. La liste de leurs noms a été publiée. Adaobi Nwaobani doute donc de l'efficacité réelle de la campagne très médiatique « Bring Back Our Girls ».
L'erreur que nous avons commise est que nous nous sommes concentrés sur les jeunes écolières de Chibok, alors que Boko Haram a enlevé plus d'un millier d'autres personnes dans le nord-est du Nigeria.
Adaobi Nwaobani estime donc que la campagne a été lancée trop fort, de façon trop spontanée, sans réfléchir. Hosea Abana, lui, ne comprend pas du tout ce point de vue. Sa nièce fait partie des otages toujours détenus par Boko Haram. Il participe activement à la campagne Bring Back Our Girls dans l'espoir d'aider sa nièce en faisant pression sur le gouvernement du Nigeria, tout simplement parce qu'il a peur pour la jeune fille.
Le gouvernement sauté, c'est pour ça qu'on crie tous les jours pour qu'ils se bougent. On ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire.
Maureen Kabrou, qui est responsable de la stratégie de la campagne de mobilisation, elle aussi rappelle que les autorités nigérianes se taisent depuis longtemps. Même avant Chibok, des centaines de jeunes femmes avaient déjà été enlevées dans le nord-est du pays par Boko Haram. Et le gouvernement n'a rien fait, il ne s'était rien passé.
Dans tout pays, il arrive un moment où les citoyens disent « maintenant, il y en a assez ». C'est ce qui s'est passé au moment du kidnapping des filles de Chibok, on en a eu assez.
En 3 ans, l'armée nigériane a quand même fait des choses et libéré des centaines de jeunes filles des griffes de la secte islamiste. Les soldats du Nigeria ont aussi libéré des territoires que contrôlait Boko Haram. Mais les terroristes répondent à coups d'attentats suicides et aucune issue politique et sociale pour régler le problème à sa racine et couper l'herbe sous le pied aux islamistes n'est encore en vue.
Ils n'ont jamais vu la pluie, ils ne savent même plus sourire. Il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie embarqués sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame attendent.
Alors, on parlait de mobilisation dans les années 1980, il n'y avait pas d'internet, donc il y avait des concerts de solidarité. On vient d'entendre un extrait d'une chanson lancée par un collectif d'artistes en France pour sensibiliser à la famine qui sévissait en Éthiopie à l'époque. Et nous parlions la semaine dernière des causes profondes de la famine qui sévit actuellement au Yémen et en Afrique de l'Est. Le terrorisme, la guerre, la corruption qui s'ajoute à une grande sécheresse qui détruit les récoltes. Les Nations Unies parlent de la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Des millions de personnes risquent de mourir de faim en Éthiopie, donc en Somalie, au Soudan du Sud, dans la région du lac Tchad. Des organisations internationales appellent aux dons. La communauté internationale est au courant. Et pourtant, jusqu'à présent, seule une toute petite partie de l'argent promis par les puissances industrielles a réellement été versée. Mais qu'en est-il de la solidarité en provenance du continent africain? Bien, pour l'heure, en dépit de réunions de crise de l'Union africaine et de promesses de la part des États membres, pas grand-chose ne se fait encore. Matthew Rycroft est allé sur place pour se rendre compte de la situation en 2017. Ce Britannique a été envoyé en Éthiopie et dans les autres pays africains concernés par le Conseil de sécurité de l'ONU, accompagné d'une délégation. Dans la région du lac Tchad, entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, la secte Boko Haram, dont nous parlions à l'instant, continue elle aussi ses activités. Les terroristes islamistes ont déjà tué des milliers de personnes et ont procédé à de nombreux enlèvements. Beaucoup de civils ont donc dû fuir la zone pour leur échapper. La sécheresse n'est qu'un fléau supplémentaire auquel la population doit faire face.
Then there was the question about whether... On s'est demandé si on n'exagérait pas l'ampleur de la crise humanitaire. Et ma réponse est claire, non, pas du tout. Nous avons vu que la situation sur le terrain est même pire que ce que l'on dit. Parce que les donateurs internationaux et les pays concernés tentent d'agir, on ne peut pas encore parler de famine partout. Mais j'insiste sur le pas encore. Because of the generosity of donors and the effectiveness
of the national responses, but only just. Les images de réfugiés maigres comme des squelettes circulent sur Internet. Et Matthew Rycroft le sait bien, il faut faire pression sur la communauté internationale, sinon elle échouera une fois encore à sauver des vies. Mais les partenaires africains aussi ont leur rôle à jouer. C'est ce qu'il explique en des termes diplomatiques.
L'important n'est pas la réponse mondiale à la crise, mais bien les solutions que l'on apporte au niveau national. Nous avons encouragé le gouvernement nigérian ainsi que d'autres de la région à faire davantage et à augmenter leur engagement financier. Nous avons entendu des réponses favorables. Maintenant, nous attendons que ces promesses soient suivies de faits.
Voilà ce qu'on pourrait traduire en langage courant par « Hé, les Africains, c'est à vous de jouer aussi maintenant ». Le Nigeria produit du pétrole, il est la première économie du continent. Les autorités ont promis de mettre à disposition 1 milliard de dollars pour combattre la famine, mais pour l'instant, aucun argent n'a vraiment été débloqué. Même si l'argent ne fait pas tout, comme l'explique Omolola Adele Osso de l'organisation Act for Accountability.
There's also corruption. C'est aussi un problème de corruption. Au Nigeria, par exemple, chaque fois que du riz est donné, on le transvase dans un autre sac pour le revendre au marché. Beaucoup d'aliments n'arrivent jamais jusqu'aux bénéficiaires de départ.
C'est une honte, c'est inacceptable. Voilà en quels termes le ministre allemand de la coopération, Gerd Müller, qualifie lui la lenteur de la réaction du monde face à la catastrophe en cours. Et Moussa Faki Mahamat, le nouveau chef de la commission de l'Union africaine, déplore en particulier le manque de solidarité interafricaine.
La famine qui ravage ces jours-ci des vastes régions d'Afrique constitue une vraie humiliation pour nous. L'immense potentiel de notre continent et le taux de croissance économique enviable de nombreux États membres de l'Union ne nous laissent aucun argument justificatif de cette hideuse tragédie humaine. L'expérience et les difficultés qui ont jalonné la trajectoire post-coloniale de notre continent, le salut de nos pays et de nos peuples exigent que nous prenions la pleine mesure de nos responsabilités.
Alors si les États africains ont pris peu de mesures utiles jusqu'à présent, citons quand même l'Ouganda qui accepte d'accueillir des réfugiés du Soudan du Sud et l'Éthiopie de prendre en charge des Somaliens qui souffrent de la famine. Mulugeta Zewdi du ministère éthiopien des Affaires étrangères.
So what Ethiopia has decided is if those people...
Les réfugiés peuvent venir s'ils y parviennent, car ils souffrent comme jamais en ce moment, d'autant qu'en Somalie, ils sont aussi pris dans un conflit armé, en plus de la sécheresse. C'est donc maintenant que l'Éthiopie doit les aider.
Et en Éthiopie même, plus de 5 millions de gens souffrent déjà de la faim, dont près de 2 millions dans la région Somalie, dans l'Est. Au niveau continental, l'Union africaine n'a pu réunir pour l'heure que 200 000 petits dollars de promesses pour un fonds à destination des enfants frappés par la famine. C'est la fin de ce magazine. Merci à Jens Borchers et Alexandra Goebel pour les sons. Vous pouvez nous écrire à français@dw.com ou télécharger nos émissions en vous rendant sur notre site internet à la rubrique « Nos podcasts » tout en bas de la page d'accueil. Salut et à la semaine prochaine.